vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Émission numéro 21. La quatrième de couverture de la fleuriste Place Kléber. Chers amis, bonjour. Vous ne connaissez pas encore son histoire, mais bientôt vous pourrez dire « Ah, mais je l'ai bien connue !» Mais avant cela, ce serait pas mal d'avoir quelques indications et pourquoi pas un résumé ou alors une description, quelque chose qui vous permette de dire plus tard « Ah, mais oui, oui, bien sûr, je l'ai bien connu, c'était un type qui était pas mal. Ah, mais j'ai bien aimé, bon, parfois c'était un peu long, mais surtout dans les descriptions. » On devrait tous savoir quelque chose sur les gens que l'on rencontre et ceux que l'on croise. Et avoir constamment un carnet en poche pour prendre des notes. Quand on a rencontré quelqu'un, parfois on se fait une idée simplement sur son physique, comme ça au premier coup d'œil, ou alors on se fait une sorte de pense-bête, si on a envie de le revoir, bien sûr. Bref, un texte comme une quatrième de couverture, mais une quatrième de couverture de tous les copains, les collègues de travail, de la famille. Alors, si je vous lis la quatrième de couverture de l'épicier de la rue Gaillère à Strasbourg, en fait, il est boulanger et il fait une excellente tarte au fromage, bien sûr. Vous allez deviner qui c'est et vous allez bien sûr savoir que ce n'est pas quelqu'un qui vend des salades. Ou alors la quatrième de couverture de cette dame qui porte un pull trop large, des lunettes à grosse monture style Brasillach et qui met trop de rouge à lèvres. Vous allez deviner tout de suite que c'est elle, que c'est la prof de fac qui enseigne la fraction de l'ADN au Master 2. Et la quatrième de couverture de la fleuriste de la Place Kléber. Alors, on va faire un essai, mais écoutez bien. Bon, je sais qu'il n'y a plus de fleuriste Place Kléber, il n'y a même plus de marchand de journaux, il n'y a plus rien Place Kléber. C'est dire que c'est d'une tristesse infinie, c'est d'une laideur pleine de monde. Et donc, je vais faire un essai, il n'y a plus rien, et ce rien, je vous le donne. Quelqu'un sait de qui c'est Léo Ferré. Alors, la vraie vie est ailleurs, comme disait le costumier. Et autour de la table, nous avons Ross Inant, qui est archiviste à la BNA. Bonjour Ross.
Bonjour.
Et Côme Dulac, qui est plongeur en profondeur. Bonjour Côme.
Bonjour.
Vous avez de la mémoire. Ah oui, beaucoup. Mais j'aimerais aussi la mémoire de détails de ma vie, de personnes que je me suis efforcé d'oublier. Je croyais y être parvenu et sans que je m'y attende, après des dizaines d'années, ils remontent à la surface comme des noyés au détour d'une rue à certaines heures de la journée. Quatrième de couverture.
C'est très intéressant ça. Et dites-moi, monsieur Ross, en tant qu'archiviste, par rapport à la mémoire, est-ce que vous n'avez pas la sensation parfois que les livres que vous archivez vous créent des mémoires qui ne sont pas les vôtres?
Oui, alors je suis tout d'abord agent spécial en quatrième de couverture. Et on a l'impression parfois de voler les mémoires, les souvenirs des autres, c'est vrai.
Mais l'imposture, c'est quelque chose d'assez stimulant, c'est pas mal, non? Là, par exemple, c'était « Souvenir dormant » de Patrick Modiano, qui invente des souvenirs qui sont vrais. C'est pas mal, hein. Enfin, ça s'appelle la littérature, mais vous n'avez pas honte de votre métier?
Non, du tout. On est en quatrième de couverture parce que c'est un travail à risque et nous conservons le mieux possible ces mémoires, ces livres.
D'accord, très bien.
En 1697, le philosophe John Locke présentait un rapport au ministère du Commerce et des Colonies en réponse à la question « Comment mettre les pauvres au travail, selon quelles méthodes et quels moyens ?» C'est ce mémoire, inédit en français, que l'on trouvera ici sous le titre « Que faire des pauvres ?» Alors, que faire des pauvres ? Alors, Coluche disait « Il faut piquer l'argent des pauvres ». ils n'en ont pas beaucoup, mais il y a beaucoup de pauvres. Ce qui était, pour un futur ministre de l'économie, une bonne idée. Mais que faire des pauvres ?
Il faut peut-être regarder en profondeur, monsieur Duilhac.
Il faut les jeter à l'eau, dans le grand bain du travail, et peut-être qu'ils apprendront à nager tout seuls.
Oui, je ne sais pas si c'est une bonne méthode.
Peut-être un peu radical.
Un peu radical, oui. Dans ce livre, il est question d'une vie brève. Pas celle d'un inconnu choisi au hasard, parce que j'aurais vu sa photo, son sourire dans un vieux journal, mais celle de mon père, Maurice Audin. Peut-être avez-vous déjà croisé son nom, peut-être avez-vous entendu parler de ce que l'on a appelé l'affaire Audin, ou peut-être pas. Je le dis d'emblée, ni le martyr, ni sa mort, ni sa disparition ne sont le sujet de ce livre. C'est au contraire de la vie, de sa vie, donc de toutes les vies et de toutes les traces qui n'ont pas disparu, que j'entends vous parler ici. Donc,
que l'on ait connu ou pas connu Maurice Audin, c'est, je trouve, une belle référence à cette émission « Vous l'avez bien connu », qui réunit des gens qui l'ont bien connu pour que des gens qui ne l'ont pas connu puissent nous écouter.
Et Michel Audin, donc sa fille qui a écrit ce roman, qui est une mathématicienne, elle est à Strasbourg. On peut la croiser à la fac de Strasbourg. Et c'est un personnage que j'aimerais bien croiser, que je trouve fascinant. J'adore ses livres, elle en a écrit beaucoup. Vous l'avez rencontrée, Rossi Nantes, à la fac ?
Oui, bien sûr. Je vous dirais, vous l'avez bien lu. Et ensuite, vous allez pouvoir la connaître.
D'autant plus qu'elle est membre de l'Oulipo. Et c'est quelque chose d'assez, impressionnant, fascinant. Et effectivement, ce livre qu'on pourrait imaginer un peu autobiographique et tout ça, pas du tout, elle en a fait un roman. Enfin, c'est voilà, une référence comme ça qui vient de suite à Annie Ernaux, qui aurait transformé sa vie en littérature. Et ça, c'est formidable.
Oui, on remarque souvent que les mathématiciens sont oulipiens. Et il s'agit ici du Père, de l'Impère, donc tout se rejoint.
Et du Saint-Esprit. Les sept péchés capitaux, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, jalousie, colère et paresse, ont été identifiés par saint Thomas d'Aquin au XIIe siècle. Ils figurent toujours en bonne place dans le catéchisme de l'Église catholique. Michel Wackenheim les passe chacun en revue, abordant leur histoire et les commentaires qui en ont été faits. Son propos consiste à dédramatiser ces péchés pour ne pas en faire des monstruosités. Est-ce que vous êtes des pécheurs, chers amis autour du micro ?
Absolument pas, je suis un plongeur. Ça n'a rien à voir, Ambroise. Enfin, je pensais que c'était très clair.
Oui, c'est clair. Mais quand même, il y a toujours une fascination, une fois encore, à l'imposture, qui est un des péchés, qui n'est pas un des péchés capitaux, mais de se prendre pour quelqu'un d'autre, qui est l'essence même de la littérature. Ross.
Oui, j'ai... des péchés, j'ai surtout rencontré les monstres. Et ils sont tous parmi nous, donc dans les profondeurs ou non, ils nous encerclent.
Les monstres, oui. Alors, je pensais au le Horla de Maupassant ou non ?
Oui, au sujet de Maupassant et justement du Horla. Je l'ai écrit il y a 2-3 jours et donc j'ai demandé au niveau juridique un plagiat par anticipation, puisque ce sacré Maupassant m'a pris ce livre bien avant.
Voilà. Donc un petit peu sur les traces de Romain Gary et d'Émile Ajar, un de nos héros favoris de « Vous l'avez bien connu ». Oui. Jeune femme, 36 ans, grosse et terriblement seule, n'attend plus rien de la vie. C'est ainsi que se voit Lise Dunn. Grosse, Lise l'a toujours été. Seule, plus encore. Hormis les visites régulières de sa famille qui la traite en cas désespéré, elle ne fréquente personne. De petite amie, encore moins. Ajoutez à cela une opération des dents de sagesse et une semaine de convalescence à regarder des films d'amour et le portrait est complet. Mais alors que Lise s'apprête à explorer davantage le gouffre de sa solitude, un coup de fil vient bouleverser son existence. d'une lucidité foudroyante et d'un humour féroce, Douglas Coupland tente de répondre aux questions que soulève la chanson des Beatles. D'où viennent les gens? Où est leur place dans le monde? Après avoir lu Eleanor Rigby, on ne regardera plus de la même façon les vieilles filles pas très sexy, revêches et un peu ridicules. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais... Ah, c'est fort, ça. All the lonely people. Être seul, je pense que c'est une autre racine de la littérature, parce que c'est très rare qu'on lise un livre à plusieurs. Peut-être si l'un lit à haute voix et l'autre est à côté et on change les voix.
Alors, depuis les archives, je vous dirais que c'est une trop bruyante solitude. Et lorsqu'on lit un texte à voix haute, on est en train de le dire. Donc à chaque fois, on est en train de donner autre chose de ce texte. Et juste en aparté, Monsieur Perrin, je m'appelle Rose, pas Grosse, comme vous l'avez signalé déjà deux fois.
Oui, Rose, qui est un nom typique alsacien. Justement, est-ce que cette solitude, lorsque l'on va en profondeur, comme...
C'est l'essence même de la plongée en profondeur, la solitude. Et je dirais même qu'il y a... J'aurais tendance à distinguer plusieurs solitudes, qu'elles soient celles que l'on a choisies, celles que l'on recherche même activement, parfois sans l'obtenir, ce qui, pour certains plongeurs, est exactement la motivation à leur plongée. Ils descendent, jusqu'à rechercher une solitude toujours plus absolue, mais qu'ils ne trouvent jamais, car on n'est jamais assez profond.
Alors, il y a des exemples mystiques, ceux qui vont au couvent, hein, on peut rester, je crois, 2-3 ans sans parler à personne, on ne sort jamais, pour être seul avec soi et avec les choses de l'esprit, le bon Dieu si on veut y croire ou autre chose, mais ça doit être quelque chose d'assez fascinant. Mais dans notre vie quotidienne qui est tellement intense et tout, où on rencontre beaucoup de gens, on a eu l'expérience du Covid où tout d'un coup, on était seul, on n'avait plus... Alors, bien sûr, il y avait les réseaux sociaux maintenant, ça bousille un petit peu toute cette expérience. Mais se retrouver, par exemple, 48 heures tout seul, juste à organiser sa vie sans rendez-vous, sans objet de sortir, bouquiner jusqu'à 6 heures du matin, faire le petit déjeuner à 3 heures de l'après-midi, est-ce que c'est une solitude qui peut être acceptée quand on vit en société ?
La société, elle est très ambivalente. Elle cherche à la fois à éradiquer la solitude, à ce que tout le monde soit connecté à tout le monde instantanément. Et pour autant, tout le monde, parfois, à son moment où il cherche absolument à vouloir être dans son coin, dans sa bulle. Et donc cette société, elle cherche vraiment à combiner deux contraires qui sont complètement antinomiques et qui ne peuvent coexister.
On lui avait diagnostiqué le Covid, mais ce n'était pas ça. Adénocarcinome exocrine, crime et châtiment. Pronostic sombre, 3 mois maximum. Oui, nous ne sommes pas tous morts du Covid. Après, le chat du 28 prend le soleil, observation ironique du confinement, et le chat du 28 veut pas mourir, chronique cynique du confinement suivant, voici le chat du 28 rêve d'une orgie perpétuelle. Se faufilant sous le couvre-feu du 7 avril au 2 mai 2021 à Strasbourg, des personnages ordinaires, mais extraordinairement romanesques, et qui se battent contre la pandémie. La mort... La faute à la fatalité, l'orgie, la plongée dans la littérature, raconter des histoires, c'est un excellent vaccin. Et ces impostures aussi nourrissent des rêves, ceux d'immenses succès dans le monde entier. Chaque chronique est une piste de sujet de roman. Le lecteur s'y glisse comme s'il allait escalader la cathédrale de Strasbourg avec la délectation de celui qui frôle la mort. Passionnant. Est-ce qu'on frôle la mort quand on lit des livres ?
On frôle les autres. Parlait les autres. L'enfer, oui. C'est les autres.
Oui, ça.
Donc on est. Oui, je crois.
Oui, c'est vrai.
Jean-Paul.
Jean-Paul Sartre, comme disait Boris Vian.
Tout à fait. Oui, avec son cocktail à musique, son piano à cocktail. Oui, exactement. Donc oui, on touche les autres, on les frôle. La mort, j'espère moins.
Oui, mais quand vous classez vos livres d'après les quatrièmes de couverture, donc à la BNA, est-ce que vous vous dites ça c'est un bonhomme qui va être tout seul, ceux-là je vais les regrouper pour qu'ils ne souffrent pas trop de la solitude? Comment est-ce qu'on peut faire des couples, par exemple, avec des écrivains?
Certaines amitiés secrètes, ça peut être, c'est souvent la quatrième de couverture qui va créer des affinités entre tel ou tel livre. Oui.
Mais parfois c'est des clichés. Ben, vous avez un livre de La Boétie, allez, le pauvre, on lui fout Montaigne, non?
Oui, le pauvre.
Oui, oui. Ou, un autre aussi, Maxime Ducamp, on lui met Flaubert. Et après, on se dit, oui, oh ben, c'était que le faire valoir, alors que c'est faux. Si on prend la peine de lire les livres de Maxime Ducamp, c'est un très grand écrivain qui est formidable. Mais voilà, donc il y a des gens... Voilà.
Il y a des accouplements qui marchent et d'autres qui divorcent.
Voilà.
Vous faites divorcer vos livres archivés?
Oui, et on archive les mariages et les divorces de nos livres.
Ah oui. Et il y a des livres qui vivent paxés?
En union libre également, oui, tout
oui.
à fait.
Ah oui.
Oui. Voilà. Le livre pour tous.
Parmi les premiers peintres européens, le plus grand peut-être est Diego Velázquez, le maître des Ménines. Peintre de cour de Philippe IV, roi d'Espagne, sa vie publique est assez bien connue. De sa vie privée, on ne sait presque rien, ni des raisons réelles qui lui font préférer l'état de noble à celui de peintre. Faut-il dissocier l'œuvre de l'homme? Vieille question, un jour, quand vous aurez 20 ans, comme la semaine dernière, ce sera votre devoir de philo au bac. Mais peut-on connaître rien du tout, et pourtant l'émission s'appelle « Vous l'avez bien connu », d'un peintre aussi génial, aussi fascinant que Velázquez? Comment on peut expliquer qu'on ne sache rien de lui?
On sait beaucoup. L'œuvre parle de lui également. Il a peint énormément de lacs. Je ne sais pas si vous le saviez.
Oui.
Bah, Flaubert, par exemple, puisqu'on parle de lui, refusait qu'on le prenne en photo, et surtout a refusé à Michel Lévy, son éditeur, qu'on mette une photo en couverture de ses livres de Madame Bovary, ou une gravure, un dessin, surtout pas d'illustration, parce qu'il disait que c'est l'œuvre qui parle de l'homme, de celui qui est. Voilà. Mais quand même... Je reviens à notre sujet, on prend un livre, on lit la quatrième de couverture et on a l'impression de déjà savoir des 692 pages qui sont à l'intérieur, non?
C'est un petit peu l'objectif, c'est de plonger dans l'œuvre par la fin et ensuite peut-être découvrir cette solitude profonde.
Oui, et puis il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que très souvent sur les quatrièmes de couverture se trouve l'auteur. Souvent, parfois même avec sa photo. Et c'est un peu l'invitation de l'auteur à ce que lui-même soit pris en compte lorsque on lit cette quatrième de couverture. Un peu, c'est comme si sa vie privée était affichée comme étant un prisme à travers lequel on pouvait lire cette quatrième de couverture.
Tout à fait. La quatrième de couverture est une séduction du lecteur.
Ça peut être aussi simplement le service commercial qui se dit « on va accrocher le lecteur grâce à cela ».
Je ne l'espère pas.
Je suis trop prosaïque. Quand parut « L'amour, la poésie » en 1929, j'avais 20 ans, comme la semaine dernière, dans notre célèbre émission, vous l'avez bien connu. J'avais 20 ans et c'est à ce moment-là, où peu s'en faut, que je fis la découverte d'Éluard. Découverte est le mot qui convient, pour étonnant ou même ridicule qu'on puisse le trouver aujourd'hui, que l'œuvre de Paul Éluard a eu plusieurs millions de lecteurs. Est-ce qu'en poésie, on peut mettre une quatrième de couverture qui aurait du sens? Puisque, a priori, la poésie doit surprendre. Donc,
Oui, on ne peut pas donner un sens à la poésie. Désolé, cher lecteur, il faudra trouver soi-même la direction à prendre.
Oui. Ce qui me semble terrible chez un enfant, ce qui est terrible chez un enfant, ce n'est pas tellement de savoir qu'il n'est pas aimé, et pourtant c'est important, mais c'est de ne pas pouvoir aimer parce que ce noble sentiment est rejeté des autres. Ces mots bouleversants sont ceux de Daniel, un de ses fils de Bosch, de ses enfants de la honte ou de la collaboration horizontale, comme les qualifiaient les patriotes zélés de 1945, les premiers à prendre la tondeuse pour stigmatiser le comportement des mères qui, aujourd'hui encore, se terrent dans la souffrance. Est-ce qu'un livre, justement, peut régler des comptes ?
Ah, complètement.
Oui ?
Oui.
Il a une fonction pédagogique, le livre ?
Il a la fonction que l'auteur veut lui donner. Ça peut être autant une arme qu'une espèce de câlin réconfortant. Que ça peut être autant un confident qu'un accusateur.
Oui. Alors, ce livre, c'est « Enfants maudits » de Jean-Paul Picaper et Ludwig Nors. Une enquête, comme ça, sur des gens qui n'avaient pas envie de naître, pratiquement. Enfin, on n'en sait rien, mais et qui existent. Donc, est-ce que peut y avoir des... Comme il y a des gens malgré eux, est-ce qu'il y a des livres malgré eux ?
Oui, plus que ne pas vouloir naître, là on va aller sur le dénaître, et puis naître une deuxième fois. Et les livres parfois permettent une renaissance, une double naissance, oui.
Oui, je passerai et repasserai par l'Alsace, car aussi longtemps que je pourrai en reprendre le chemin, je ne me verrai jamais finir ma vie sans la revoir. Puis, le moment venu, j'aurai ma dernière demeure en sa cathédrale, au cœur de cette terre d'entre Vosges et Rhin que, oui, décidément, j'aurais tant aimé. Est-ce que le thème des racines, est-ce que ce n'est pas toujours un sujet sous-jacent à toute la littérature, inconsciemment ou non ?
Dans le livre papier, oui, bien sûr. Les racines sont là, puisqu'on part de l'arbre pour produire le livre. Dans la littérature virtuelle, on est un peu perdu de ça, on parle de fenêtre plutôt.
Oui, alors là, c'est pourquoi j'aime tant l'Alsace d'un évêque, Monseigneur Joseph Doré, mais bon, ça se lit comme... Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Mais est-ce que le fait de revenir à ses racines, parce qu'on a un âge comme ça, beaucoup de gens commencent à écrire à la retraite. Pas forcément dans un but commercial, mais pour transmettre à leurs enfants, parce qu'ils ont vécu quelque chose. Est-ce que le livre, c'est l'éternité ? Comme disait Rimbaud avec les voyelles.
Alors, si on retire ces couleurs, on peut dire que le livre, c'est le passage. C'est transmettre ce souvenir, cette mémoire, l'histoire, la mémoire historique. Le livre, c'est passer à l'autre.
C'est de dire à quelqu'un, je l'ai bien connu, et je te le donne, et toi, tu pourras le raconter à tes enfants et à tes petits-enfants. Voilà. Il était une fois une coccinelle paresseuse qui n'avait jamais pris la peine d'apprendre à voler. Un jour, elle en eut assez de dormir au même endroit. Mais comment voyager quand on ne sait pas voler ? La coccinelle eut alors une drôle d'idée. C'est une histoire simple et pleine d'humour qui séduira les enfants par ses illustrations colorées. Et à la fin de l'album, une surprise les attend au creux d'un grand dépliant. Souvenirs d'enfance, vos premiers livres.
Les livres, c'est comme des câlins. Donc on retourne à ces livres jeunesse comme la Madeleine d'un certain Proust, qui
oui.
me semble revenir souvent.
Proust. Oui, il me semble que c'était Proust.
Oui, oui. Pardon.
Voilà.
C'est pas grave. Prost.
C'est une super quatrième de couverture parce que elle a ce côté très presque aguicheur. Pour un livre d'enfant, c'est je dirais presque l'une des quatrièmes de couverture qui donne une envie vraiment irrépressible de savoir quelle est la surprise, de savoir qu'a-t-elle fait cette coccinelle. Et pour un exercice tel que celui de entre guillemets, de présenter par la fin cette quatrième de couverture, comme vous l'avez dit un peu plus tôt. Je trouve qu'on a ici un exemple qui se démarque assez bien.
Oui, c'est un travail que d'écrire de belles quatrièmes de couverture, bien sûr.
Est-ce que la quatrième de couverture, quand on la reprend, le livre a dormi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans sur une étagère, on retombe dessus, on lit la quatrième de couverture et on se souvient. Moi, je me souviens d'un des tout premiers livres que j'ai lus, c'était « Tombé du ciel », collection Rouge et Or, Winterthur, je crois, l'auteur. C'est l'histoire d'une fille qui était sur une petite fille qui était sur un satellite, enfin sur une soucoupe volante. Et qui arrive là, et les enfants s'occupent d'elle, elle est bien, et puis un jour elle doit repartir. Et c'est triste, et j'ai pleuré à la fin. Et quand c'est la fin, c'est vrai que c'est toujours très triste. Et c'est donc la fin de l'épisode numéro 21. C'était l'épisode numéro 21 de « Vous l'avez bien connu », la quatrième de couverture de la fleuriste de la place Kléber, avec Rose Inante, archiviste à la BNA, Côme du Lac, plongeur en profondeur, Patrick Modiano, John Locke, Michel Audin, Michel Wackenheim, Douglas Coupland, Ambroise Perrin, Velasquez par Janine Baticle, Paul Éluard, capitale de la douleur, Jean-Paul Picaper, enfant maudit, Joseph Doré, pourquoi j'aime tant l'Alsace, et la coccinelle qui ne voulait pas voler. À la technique, Thomas Marinelli. On se retrouve tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. And my name is Ambroise Perrin.